Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflits. Nous allons cette semaine parler géographie militaire, de cartes, de liens également entre cette discipline de la géographie et le monde militaire, le monde de la géopolitique. Évidemment, tout le monde connaît le célèbre ouvrage d'Yves Lacoste, La géopolitique, ça sert d'abord à faire la guerre, qui a marqué un monde intellectuel et qui a marqué une époque. Et effectivement, il y a un lien très fort, très ancien, entre le monde militaire et le domaine de la géographie. Et pour traiter de ces rapports entre la géographie et le monde militaire, je reçois Philippe Boulanger. Merci d'avoir accepté l'invitation de Conflits. Vous êtes professeur des universités en géographie à la Sorbonne. Vous travaillez notamment sur la géographie militaire et sur la géopolitique. Et vous avez publié plusieurs ouvrages, dont un qui vient de paraître chez Perrin, en collaboration avec le ministère des Armées, qui s'intitule « La géographie, reine des batailles ». Et c'est donc de ce rapport, cette question entre géographie et monde militaire, que nous allons traiter. Première question sur la géographie, c'est une discipline qui est enseignée à tous les niveaux, mais qui est souvent mal comprise, qui est parfois un peu malmenée. On oublie par exemple la géographie physique ou la géographie structurale, et on réduit parfois la géographie uniquement aux questions de la sociologie ou aux questions du développement durable, oubliant l'essence même de la géographie. Comment est-ce que vous définiriez la géographie ?
Bien, tout d'abord, merci Jean-Baptiste Noé de m'accueillir pour aborder le thème de la géographie, et pas seulement à des fins de défense, comme en témoigne votre première question. Alors, la géographie est une science très ancienne, il faut le rappeler, pratiquée par les premières organisations de l'Antiquité, les organisations politiques. Il faut rappeler que les premiers grands géographes et cartographes étaient grecs, puis romains, et à cette époque, on définissait la géographie comme la science de la Terre, c'est-à-dire tout ce qui se rapporte en fait au milieu naturel, à la topographie, à l'organisation des chaînes de montagnes. Il faut attendre une date relativement récente pour voir la géographie comme une science académique. Rentrer à l'université, dans les enseignements, cela a commencé dans l'enseignement jésuite, en particulier au XVIe siècle, puis avec la création des premières chaires d'enseignement de la géographie à l'université au XIXe siècle, et notamment dans la deuxième moitié du 19e siècle. Donc la géographie, elle occupe toujours une place un peu particulière parce qu'elle est considérée comme une science, je viens d'utiliser le mot d'ailleurs, mais une science de synthèse, une sorte de convergence de différents savoirs. Il y a un célèbre géographe militaire français de la fin du 19e siècle qui s'appelle Gustave Léon Niox et qui nous dit que la géographie est dans un tout, tout est dans la géographie. En fait, par définition, la géographie se distingue de l'histoire, de la sociologie, de l'anthropologie, de l'ethnologie et bien d'autres approches des sciences humaines par le fait qu'elle est le lien entre les hommes et leur territoire. Étudier la géographie, c'est en fait comprendre comment les hommes s'approprient leur territoire, comment ils peuvent le modifier, l'aménager, et inversement, comment le milieu naturel peut modifier également les comportements des sociétés humaines. C'est en cela que la géographie est une discipline passionnante, que les géographes sont considérés comme des savants de terrain. Ils vont voir les hommes, ils vont voir les territoires, les observer, en dessiner le paysage pour mieux comprendre justement ces interactions.
Alors vous évoquez la géographie comme science de terrain, et notamment effectivement par l'étude des paysages. Il y a un vieux dilemme sur cette question entre le volontarisme d'un côté et le déterminisme de l'autre. Les paysages sont naturels, mais ils sont construits par l'homme. Comment est-ce que le géographe pense ce rapport entre déterminisme et volontarisme et la question du rôle de l'homme sur le paysage, et notamment dans le rôle militaire? Est-ce que le militaire est forcément contraint par le paysage, ou est-ce qu'il arrive à s'en affranchir?
Alors, cette question justement du déterminisme géographique, elle est ancienne, elle est même déjà résolue depuis un certain temps, mais elle a marqué les esprits pendant des siècles. Jusqu'à la fin du 19e siècle, globalement, on pense que les conditions naturelles, les conditions du milieu, déterminent la manière de vivre, la manière de se comporter, de manger, de faire la guerre également. Aujourd'hui, et depuis donc la fin du 19e siècle, on sait que les hommes s'approprient leur territoire et le modifient. Il s'agit de comprendre déjà comment la question du réchauffement climatique, par exemple, est prise en compte pour voir que les sociétés humaines essayent de réagir pour ne pas subir les effets du milieu naturel et des conditions géographiques de manière générale, et au contraire, savoir s'y adapter, les modifier à leur tour. Ce sont des approches qui ont fait de larges débats tout au long du 19e et du XXe siècle. Aujourd'hui, un bon géographe, c'est quelqu'un qui sait observer, comprendre, s'approprier un certain nombre d'éléments sans vouloir forcément subir justement l'importance de ces données géographiques. Pour prendre un exemple, à la fin du XIXe siècle, dans la science militaire, on considérait que le milieu naturel déterminait la manière de pratiquer la guerre. Les géographes militaires ont inventé un certain nombre de doctrines et surtout de théories, de concepts pour justement voir quels étaient les endroits où l'on pouvait le mieux faire la guerre et donc gagner la bataille. Par exemple, le commandant Barré a inventé la théorie de la géogénie, ou encore le colonel Fervel, toujours à la fin du 19e siècle, invente la théorie des joints d'assises terrestres. Il s'agit de voir comment les couches géologiques permettent en fait de mieux pratiquer la manœuvre pour gagner la bataille. On sait, à partir de la Première Guerre mondiale, que toutes ces théories sont très intellectuelles, sont très théoriques, justement, trop théoriques. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce type d'apprentissage et de pratique de ces conceptions.
Alors justement, on comprend très bien l'influence du milieu dans la guerre telle qu'elle était pratiquée de façon classique jusqu'au XXe siècle. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure des missiles intercontinentaux, à l'heure des attaques du cyber, est-ce que la géographie est encore utile ou est-ce qu'elle a été complètement aplanie par les nouvelles technologies?
La géographie est toujours la reine des batailles, comme le donne le titre de
Condition
l'ouvrage.
naturelle.
Effectivement, il faut distinguer plusieurs éléments, car votre question est extrêmement intéressante, mais aussi très riche. De manière synthétique, il existe plusieurs types d'espaces. Il y a les espaces matériels et les espaces immatériels. Les espaces matériels sont toujours prépondérants. L'espace terrestre, dans un premier temps, il faut rappeler que l'espace terrestre, dans la doctrine de l'armée française, est considéré comme le plus difficile, en fait, à encadrer, à exploiter. Il y a l'espace maritime, l'espace aérien et plus récemment, comme en témoigne la nouvelle doctrine de l'espace extra-atmosphérique, il y a tout le domaine géospatial qui vient en fait chapeauter l'ensemble des espaces. Hervé Couteau-Bégary, dans le traité de stratégie publié dans les années 2000, réédité à plusieurs reprises également, le mentionne déjà. C'est pas une nouveauté. On sait que l'espace extra-atmosphérique et l'espace en cours de conquête qui occupe une place fondamentale dans les stratégies des grandes puissances mondiales. Il y a ensuite les espaces immatériels, l'infosphère, l'espace électromagnétique, l'espace numérique en particulier, qui sont des espaces nouveaux mais qui ne viennent pas fondamentalement changer la conception de la géographie. On retrouve de grandes similitudes entre la conception et la pratique des espaces physiques et des espaces immatériels.
Est-ce que ce n'est pas une sorte de déviance du mot espace? La géographie donne l'impression finalement que on donne à tout la notion d'espace. La géographie à l'origine c'est la mer, la montagne, et finalement tout devient espace.
Oui, exactement. Alors, les géographes emploient différents termes hein, pour désigner justement l'environnement qui les entoure. D'ailleurs, c'est le premier sens du mot environnement, ce qui entoure. Il y a la notion d'espace qui est plutôt neutre. L'espace au sens large, l'espace maritime, vous l'avez cité, l'espace terrestre, l'espace aérien, etc. L'espace numérique, hein, plus récemment. Le terme d'abord s'impose hein, d'ailleurs par rapport rapport au terme cyberespace, ce qui montre bien que l'espace numérique a acquis une pleine reconnaissance pour les stratèges, mais pas seulement, de manière générale, pour toutes les sociétés. Il y a naturellement ce mot espace, mais il y a un autre terme qui est plus politique, et là on entre dans une perception géopolitique en fait des objets, c'est le mot territoire. Il se produit actuellement une territorialisation globale des enjeux de pouvoir. L'espace maritime en témoigne, le bassin méditerranéen, notamment dans la partie orientale du bassin méditerranéen, est en train de devenir une zone extrêmement sensible sur le plan géostratégique et politique. Donc, on voit bien que les géographes font la distinction entre les deux, entre espace et territoire, mais les militaires ne sont pas épargnés par cette distinction, puisqu'ils parlent d'environnement. En fait, c'est un terme de géographe qui est employé officiellement dans la doctrine française, mais pas seulement, dans la doctrine occidentale de manière générale. L'environnement, alors on parle d'environnement physique, on parle d'environnement humain, pour désigner justement ces espaces où il y a une manœuvre à produire, il y a des éléments à prendre en compte, comme les communautés religieuses, par exemple, au Moyen-Orient, quand il s'agit de mener une opération sur le terrain.
Aujourd'hui, la géographie, quelle est sa place dans les études militaires ? Vous-même, vous êtes professeur dans plusieurs écoles militaires. Est-ce qu'en France, il y a une place pour la géographie dans les écoles où on forme les officiers, que ce soit à Saint-Cyr, à Naval ou à l'école de guerre ?
Alors c'est une très bonne question. Il faut souligner qu'aujourd'hui, on n'a jamais accordé autant d'importance à la géographie dans les enseignements militaires par rapport à la fin du 19e siècle. En fait, pour être synthétique, il y a différentes phases où l'on accorde de l'importance à l'enseignement, aux connaissances géographiques pour les officiers et sous-officiers. Il y a la période de la fin 19e siècle, en particulier en France, où l'on voit une très nette importance accordée à la géographie dite militaire, c'est-à-dire à la géographie à des fins militaires, surtout physiques dans un premier temps, puis elle va devenir de plus en plus humaine, notamment après la Première Guerre mondiale. Durant la guerre froide, il se trouve que l'enseignement de la géographie pour ces militaires, qui doit être opérationnel, elle doit servir naturellement à pratiquer le métier militaire et pas simplement à devenir une discipline de loisir. Eh bien, durant la guerre froide, ces enseignements réservés à la géographie prennent un autre sens. Ils deviennent justement moins opérationnels. La géographie est de moins en moins reconnue comme une science fondamentale, véritablement pour la pratique du métier militaire. Et depuis la fin de la guerre froide, on prend conscience qu'il faut découvrir et connaître de nouveaux territoires, voire redécouvrir des territoires que l'on pensait vraiment connaître, mais en fait, les expériences ont montré tout le contraire. C'est le cas en Afrique, par exemple, en Afrique de l'Ouest, au Sahel. Mais c'est là, pareil également en Asie occidentale, en Afghanistan, par exemple. Il faut rappeler que la plupart du temps, les premières troupes qui partent en urgence, quasiment sur des tables d'opérations, ont très peu d'informations d'ordre géographique. Dans les années 90, 2000, lorsque l'on envoie les premières troupes françaises à Kaboul en Afghanistan, cela a été dit par différents spécialistes, les informations géographiques sont très très marginales. Il y a peu de cartes, par exemple, mises à disposition et surtout mises à jour. Lorsque des opérations militaires sont engagées en Centrafrique dans les années 2000, on se sert encore des cartes topographiques élaborées par les géographes militaires, les cartographes militaires datant des années 50. Cet enseignement de la géographie est en train d'être valorisé parce qu'on prend conscience que cet élément est au cœur de l'activité militaire. Il ne peut y avoir d'activité militaire sans prendre en compte le territoire et l'espace et donc le représenter sous la forme de cartes en format papier, de plus en plus de cartes numériques. Et cela donc participe à rénover complètement l'enseignement de la géographie. Alors, on le retrouve par exemple à l'école de Guerre-Terre, mais également dans d'autres lieux d'enseignement, comme les écoles militaires spéciales de Saint-Cyr, vous l'avez sous-entendu à l'instant. Cela part également à l'université, où parler des questions militaires en géographie était quasiment impensable dans les années 1990-2000. aujourd'hui, il y a de plus en plus de place accordée aux questions de défense et de sécurité en géographie. Je ne parle pas de la science politique ou de l'histoire, où ce sont des faits généralement bien établis. Aujourd'hui, par exemple, à Sorbonne Université Lettres, un Master 2 géopolitique information géographique numérique va ouvrir au mois de septembre, accordant une pleine importance justement aux enseignements de géostratégie, de géopolitique des questions de défense. C'est une dynamique complètement nouvelle et il faut s'en féliciter à mon sens.
Alors vous évoquez les cartes, Philippe Boulanger, ça évoquera des souvenirs aux anciens étudiants de Cagnes qui ont travaillé ces cartes. On a en tête bien évidemment les cartes d'état-major, d'ailleurs des cartes qui ont été faites pour la guerre. Plus récemment, on a eu les cartes de l'IGN réalisées pour le loisir. Mais qui dit carte suppose la question de la représentation des informations. On ne met pas tout sur une carte. Donc quelle information on prend, quelle information on retire. Et puis c'est également une question d'échelle. Là aussi, quel degré d'information on veut donner, à quelle dimension on se positionne. Comment est-ce que la carte, dans son choix d'information, à ses différentes échelles, peut servir le monde militaire? Et comment est-ce qu'elle est traitée pour le monde militaire?
Alors la question que vous posez est très large, hein. C'est une question qui a déjà toute une histoire. Plusieurs éléments sont à rappeler. D'abord, la carte est une représentation en deux dimensions, effectivement, d'un environnement. La carte est censée donner une information en fonction d'un besoin. Donc, comme vous l'avez cité, il y a des cartes touristiques, il y a des cartes de navigation, il y a des cartes d'ordre militaire. Il faut donc rappeler que les premiers cartographes qui vont améliorer la science de la représentation cartographique sont des militaires. Dès le XVIIe, XVIIIe siècle, en France, par exemple, les premiers réalisateurs de cartes précises sont des militaires, ils ne sont pas les seuls hein, naturellement, mais il y a une spécialité qui se développe, ce sont les ingénieurs cartographes et géographes du roi. C'est surtout à partir du 19e siècle que la carte d'état-major, 80 millième, puis elle deviendra 50 millième à la fin du 19e siècle, commence à rassembler des éléments d'information extrêmement précis. Tout peut se voir sur les cartes d'état-major au 50 millième datant des années 1910, modèle 1912 notamment, y compris la nature hein, des haies qui séparent des parcelles. Donc la carte est conçue comme un outil militaire, on le sait, la connaissance géographique est un outil de pouvoir. Les Grecs l'avaient bien compris dès l'Antiquité, hein, puisque la représentation cartographique, même si elle n'était pas forcément très détaillée, très juste, eh bien, était un savoir réservé aux princes, aux stratèges, aux tacticiens également. Alors, il se produit depuis la Première Guerre mondiale et encore plus depuis le début du XXIe siècle, de véritables révolutions dans la manière de représenter le terrain. D'abord parce que le militaire accorde plus d'importance à l'aménagement du terrain. Il faut rappeler que c'est surtout à partir de la Première Guerre mondiale que les éléments d'aménagement du terrain sont élaborés et précisément envisagés. Et puis, à la fin du XXe siècle, donc dans la période post-guerre froide, et surtout au début du XXIe siècle, l'outil numérique vient révolutionner la manière de représenter eh bien, les éléments sur un plan en deux dimensions. Parfois, il est en trois dimensions. La raison est très simple, c'est que les outils numériques permettent de créer ce que l'on appelle une fusion de données, et on pourrait même dire une fusion de données géolocalisée. C'est ce que l'on appelle, dans la communauté des spécialistes, le GEOINT, le Geospatial Intelligence, donc ça voudrait dire le renseignement géospatial, mais en fait ce n'est pas la bonne traduction. La bonne traduction serait plutôt fusion de données géolocalisées, c'est-à-dire qu'à partir de multiples capteurs, satellites par exemple, observation terrain, photographie, documentation écrite, eh bien on fait la fusion de ces différentes informations à partir d'outils permettant de créer des bases de données, donc de collecter de l'information, de la stocker, et puis ensuite d'en faire une fusion, c'est-à-dire de pouvoir retenir les informations les plus utiles en fonction d'une problématique donnée. On voit bien là que la représentation cartographique a atteint un niveau inégalé dans l'histoire de l'information géographique et cartographiée, au point de devenir d'ailleurs un outil de prépondérance mondiale, d'influence mondiale. Seules les grandes puissances ont cette capacité justement de produire aujourd'hui des cartes dites de fusion de données géolocalisées quasiment en temps réel.
Vous avez évoqué la question du numérique. C'est évidemment un domaine qui concerne de nombreuses disciplines et évidemment la géographie. Est-ce qu'aujourd'hui, le numérique modifie la science géographique, la manière de voir les cartes, la manière d'aborder les paysages? Est-ce que ça a complètement transformé cette discipline ou est-ce que c'est une amélioration de choses déjà existantes?
Alors c'est une évolution qui est en cours, mais qui est en cours sous la forme d'une continuation finalement, parce que il existait déjà des données numériques géographiques dans les années 1990. Hein. À peu près 10% des données géographiques sont d'ordre numérique dans les années 90. Aujourd'hui, on est au niveau de 95%, peut-être 100% même, car tout se fait par l'outil numérique. Alors la donnée numérique géographique est l'élément central de mutation de la géographie de manière générale, qu'elle soit civile ou militaire. Mais si l'on reste dans le domaine militaire, on se rend compte que la géographie militaire actuellement est faite de données géographiques numériques. C'est-à-dire que l'on est capable de pouvoir représenter des phénomènes à différentes échelles géographiques pour différents acteurs. Il faut quand même souligner que le stratège, par exemple, à travers son écran, peut obtenir et voir la même information géographique que le soldat sur le terrain. Ça donne lieu à différents programmes, Scorpion par exemple, mais bien d'autres dans d'autres pays également. La donnée numérique, en fait, c'est l'élément qui permet la pleine efficacité de l'emploi de l'outil militaire. On pourrait parler dans ce cas-là du ciblage, on pourrait parler également de la manœuvre, qu'elle soit tactique, opérationnelle, voire stratégique, on pourrait parler également du fonctionnement des systèmes d'armes. Tous les systèmes d'armes aujourd'hui modernes utilisent la donnée géographique numérique. Alors ce point est très important, mais cela est facile à dire, parfois plus difficile à faire. On sait qu'une carte numérique d'une région, d'un pays par exemple, peut prendre plusieurs années, donc il est question de développer de plus en plus de rapidité pour produire de bonnes cartes issues de différents capteurs, dont le satellite que je mentionnais tout à l'heure. Il est question également d'améliorer la transmission de ces données géographiques numériques. Ça reste toujours un véritable problème de transmettre les informations à différents acteurs en temps réel. Donc il y a des partages d'informations qui sont toujours délicats à produire. Ensuite, on pourrait souligner également que les attentes sont extrêmement fortes de la part à la fois des décideurs comme des unités. D'ailleurs, c'est le propre de la géographie à des fins militaires. Cela même est mentionné dans notre doctrine de l'armée française. La géographie est une aide à la décision et un appui aux unités. C'est un outil assez fort hein, qui monte en puissance aujourd'hui parce qu'on se rend compte qu'on a besoin d'agir de plus en plus vite, de plus en plus loin et de mieux en mieux pour éviter des pertes civiles ou des pertes militaires par exemple. Et on se rend compte que la géographie, comme le disait d'ailleurs Gustave Léon-Niox que je citais tout à l'heure également, la géographie redevient une science centrale dans l'activité militaire. Il est question en permanence d'obtenir les meilleures informations. Alors cette tendance, elle n'est pas nouvelle. Certains pourraient dire, mais finalement, déjà durant la Seconde Guerre mondiale, la connaissance géographique était centrale. Oui, c'est vrai. Durant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, le service météorologique de l'armée britannique a publié 7 volumes de statistiques sur les données météorologiques de la Manche pour préparer le débarquement dès 1943. Il est vrai que la géographie a toujours occupé une place importante. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant de noter, ce sont les exigences de rapidité, d'efficacité dans le temps, d'accélération du rythme, de la production géographique pour répondre à des besoins qui sont de plus en plus nombreux, de plus en plus précis. Aujourd'hui, il est devenu pratiquement courant de rappeler qu'on peut suivre un 4x4 dans le Sahel en temps réel et de pouvoir ensuite engager une unité pour le surveiller, le neutraliser. La géographie redevient une science incontournable pour le militaire, à tel point que la doctrine militaire française en la matière s'est précisée depuis 2000. Il y a des moyens de plus en plus importants, des programmes plus diversifiés. Je cite l'armée française, mais je pourrais citer également l'armée britannique, l'armée allemande, l'armée américaine, sans parler des pays émergents qui accordent tout autant une place fondamentale à la géographie, même s'il faut la relativiser par rapport à d'autres secteurs, comme le secteur nucléaire, par exemple. Mais depuis un siècle, on n'a jamais vu autant d'importance accordée à la connaissance géographique, mais aussi aux moyens géographiques dans les armées.
Alors justement, par rapport à ces moyens entre l'armée et la géographie, pour l'armée française, est-ce qu'il y a un lien institutionnel, un département, par exemple, entre les facultés de géographie, ou bien des liens entre l'armée et l'université?
Alors, il y a en fait deux questions dans ce que vous me proposez d'aborder. Le premier élément est qu'il existe des institutions de géographie militaire dans l'armée française, et cela est un héritage en fait du règne de Louis XIV, avec la création des cartographes topographes militaires, puis des ingénieurs géographes, surtout au XVIIIe siècle. Donc il y a une évolution en fait des institutions géographiques militaires. Il ne faut pas oublier non plus la marine, hein, qui a son propre service hydrographique et sonographique, qui date également de la même période, de l'époque moderne. Il y a bien sûr des phases de transformation de ces services. Ceux-ci montent en puissance à la fin du XIXe siècle. La raison est bien connue, c'est lorsque l'armée française perd la guerre face à la Prusse en 1870-1871. Et les stratèges, comme les unités sur le terrain, disposent de bonnes informations du territoire allemand, mais en ont très peu finalement du territoire français. Cela est souligné par exemple par Émile Zola dans la débâcle 20 ans après la guerre en 1892, lorsqu'il fait dire par l'un de ses personnages, qui est le général Burguin des Feuilles, qui se trouve dans les Vosges et qui doit se rendre vers Metz, il fait dire à ce personnage: comment voulez-vous que l'on se batte sur un territoire que l'on ne connaît pas? C'est un général français qui est censé diriger plusieurs milliers d'hommes et il ne sait pas comment se rendre vers Metz en partant des Vosges parce qu'il n'a pas forcément les cartes topographiques, les cartes d'état-major que l'on mentionnait tout à l'heure, mais il n'a pas forcément non plus les connaissances géographiques pour se localiser sans avoir recours à une carte. À partir de ces expériences liées à la défaite, le service géographique de l'armée est né. C'est un des meilleurs services au monde de géographie militaire à cette époque, à tel point qu'il sera copié par les nouveaux états d'Amérique latine, par exemple. La géographie militaire se structure comme un courant de pensée et sera prépondérant dans la discipline, dans l'enseignement de la géographie militaire. Il y a une véritable école de pensée de géographie militaire française qui rayonne jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, il faut le rappeler. Ce mouvement à la fois d'institutions de géographie militaire, de connaissances de géographie militaire, prospère jusqu'à aujourd'hui. Il y a naturellement des refontes, des transformations. La Seconde Guerre mondiale a été une période de ralentissement de la connaissance. La période de la guerre froide a localisé principalement la géographie militaire à l'échelle opérationnelle et tactique, pour faire des cartes notamment de l'Europe de l'Ouest dans le cadre de la préparation à la Troisième Guerre mondiale face au pacte de Varsovie. Et aujourd'hui, il y a différents services dédiés à la géographie militaire. Ils sont connus, ils sont de notoriété internationale compte tenu du rayonnement de leur activité. Il y a le bureau géographique, hydrographique, océanographique et météorologique de l'armée, donc un service interarmé qui en fait supervise les activités de d'autres services comme le célèbre 28e groupe géographique de l'armée de terre. Il peut y avoir d'autres unités également concernées par le développement de la géographie militaire. Alors ça, c'est pour la première question que vous me posez. Pour la deuxième question, qui est le lien entre la géographie militaire, c'est-à-dire la géographie des militaires pratiquée de manière institutionnalisée, pardon, et la géographie académique et universitaire, ces liens sont de plus en plus précis, sont de plus en plus tissés, même si il faut quand même les relativiser largement. D'abord parce que ces liens, si on parle du cas français, sont relativement récents finalement, dans la mesure où ils sont officialisés naturellement. La Première Guerre mondiale a été probablement la première grande période où les relations entre les géographes universitaires et les géographes militaires ont été parfaits et allaient dans le même sens. Vidal de la Blache, Emmanuel de Martonne, de Mongeon également, qui sont des grands géographes français naturellement du début XXe siècle, ont été réunis à travers la commission de géographie militaire qui avait été organisée par le général Bourgeois, alors le chef du service géographique de l'armée, dès octobre 1914. Cette commission se réunit régulièrement, quasiment toutes les semaines, à l'Institut de géographie de Paris, rue Saint-Jacques, pour définir eh bien, les cartes, les synthèses de géographie utiles pour le militaire et gagner, bien entendu, la Première Guerre mondiale. À souligner également que ces géographes seront employés par une autre commission qui dépendra du ministère de l'Intérieur pour préparer les futurs traités de paix, les traités de la, dit de la banlieue parisienne de 1919-1922. Aujourd'hui, depuis la fin de la guerre froide, il y a de nouveau des relations qui s'élaborent entre les géographes universitaires et la géographie militaire. Cela ne veut pas dire qu'il y a des dizaines et des dizaines de géographes universitaires qui travaillent en concorde avec les géographes militaires, mais cela se fait de plus en plus, cela se fait avec souvent de la bienveillance. Il suffit de souligner par exemple la récente signature de la convention entre Sorbonne Université et le ministère des Armées pour se rendre compte que sur le plan de la géographie, hein, je ne parle pas de toutes les sciences humaines naturellement, sur le plan de la géographie, que ces relations sont très bonnes et s'améliorent. Hein. Les géographes universitaires peuvent être consultés pour parler de cartographie, pour parler de données physiques. Cela n'a plus rien à voir avec la période de la guerre froide et post-guerre froide, c'est-à-dire celle des années 90, où le militaire n'était pas forcément bien vu dans la communauté universitaire. Cela est en train de changer. D'ailleurs, c'est une très bonne chose, car les métiers sont souvent les mêmes, les parcours professionnels différents, mais les métiers souvent les mêmes et les finalités aussi souvent identiques, car il s'agit de comprendre toujours ce lien entre le territoire et les sociétés.
Est-ce que la période coloniale, qui a nécessité de faire des cartes en Asie et en Afrique, a contribué à renouveler la pensée militaire et les rapports de la géographie militaire ?
Alors c'est aussi une très bonne question que vous posez parce que en fait il y a une distinction entre la géographie coloniale et la géographie militaire. Dans son histoire, c'est-à-dire surtout à partir du 19e siècle jusqu'à la décolonisation, donc les années 1950-1960, la géographie militaire est conçue pour faire face à l'ennemi héréditaire qu'est l'Allemagne. Le terme est officiel dans la plupart des grandes encyclopédies de géographie militaire de la fin 19e siècle, début 20e siècle. L'allemand est l'ennemi à abattre. Il faut donc connaître le territoire allemand pour envisager l'exploitation du facteur géographique pour abattre l'armée adverse, l'armée ennemie. La géographie coloniale, en fait, est très différente, même si elle est pratiquée par des militaires. Alors là, il y a quelques éléments à souligner. Premièrement, la géographie militaire des colonies a existé, mais n'a pas été vraiment valorisée. Il y a très peu d'études de précision, des études régionales. La raison est très simple, c'est que on en est encore à une géographie de découverte, d'exploration. Hein. Quand on parle, par exemple, du massif des Iforas, hein, vous savez, le massif qui peut encore accueillir des membres d'organisations terroristes internationales au nord du Mali. Eh bien, en 2013, par exemple, le massif des Iforas, qui a été étudié par la géographie militaire, on peut on peut s'en douter, eh bien s'appuie sur en fait des écrits de la croisière noire, des premiers textes rédigés par quelques militaires qui évoquent le paysage lunaire du massif d'Isiphoras, hein, qui s'étend sur 200 km du nord au sud, 100 km d'est en ouest. Il n'y a pas de géographie militaire proprement dit du massif d'Isiphoras dans l'entre-deux-guerres. Il y a une description de paysages et de chaînes de montagnes. Donc il y a une distinction très nette entre la géographie coloniale et la géographie militaire. Autre élément également à souligner, c'est que les travaux effectués sur les populations, et là je ne parle pas de géographie physique, mais plutôt des populations, sont des travaux de très très grande qualité. Les troupes coloniales qui ont effectué par exemple des études de connaissance des populations indochinoises, publiées notamment en 1923, hein, ce sont deux volumes d'études sur les populations indochinoises auxquelles je fais référence, eh bien, ce sont des travaux remarquables de précision qui servent encore aujourd'hui pour les travaux universitaires, tellement ils ont été précis, tellement ils ont apporté à la connaissance de manière générale sur les sociétés. Les troupes coloniales ont un rapport historique avec les populations indigènes et beaucoup d'importance est accordée à la culture, à la religion de ces populations. C'est donc plutôt en termes de géographie humaine que la géographie coloniale a un lien direct avec la géographie militaire. Mais encore une fois, la géographie militaire, elle a été conçue au XIXe siècle et encore au XXe siècle pour défendre le territoire national et pour lutter contre l'ennemi proche. Ça a été l'Allemand, comme je le disais, et puis ensuite, après 1945, tous les pays qui appartenaient au pacte de Varsovie. La géographie coloniale est un élément de la géographie militaire, mais elle est loin d'être directement associée. C'est une autre pratique de la géographie que d'aborder la géographie coloniale.
Dernière question, puisque nous arrivons déjà au terme de cette émission. Aujourd'hui, si on fait un peu de prospective, dans les recherches de ce qui pourrait arriver pour les rapports entre géographie et monde militaire, quelles pourraient être les prospectives, les grandes innovations, les grands changements pour un officier qui aujourd'hui sort de Saint-Cyr ou de l'école navale? Qu'est-ce qu'il aura dans 20 ans ou à quoi pourra-t-il s'attendre au cours de sa carrière?
C'est une question évidemment problématique parce que elle est source de débat aujourd'hui. Déjà, vous avez cité le mot anticipation qui est fondamental. On n'en est plus à vouloir connaître ce qui s'est passé. On en est à connaître du mieux possible ce qui se passe aujourd'hui, mais surtout à anticiper, c'est-à-dire à avoir une vision prédictive. Qu'est-ce qui va se passer véritablement? Grâce à l'intelligence artificielle, grâce à la fusion de données géolocalisées, on est de plus en plus capable de savoir ce qui peut se passer. Il faut toujours rester humble devant l'avenir, naturellement. Les géographes sont plus connus pour étudier le temps présent que pour définir des hypothèses qui ne se produiront probablement jamais. Donc, il faut toujours rester prudent par rapport à la question de l'anticipation et de la prédiction. Ensuite, comme je vous le disais, toutes les grandes tendances des prochaines décennies sont déjà en fait en cours de réalisation. C'est justement la capacité de pouvoir localiser avec précision, de connaître avec grande précision les éléments, les grandes mouvances, les mobilités qui pourraient se produire par rapport à telle ou telle entité. Et en fait, on est beaucoup plus capable de répondre à ce type de démarche à une échelle tactique, c'est-à-dire à une échelle très localisée, locale, que dans des grands touts géostratégiques qui finalement évoluent et peuvent évoluer très rapidement. Donc pour, par exemple, un élève qui sort d'une grande école militaire, navale ou Saint-Cyr, ce qu'il peut attendre en fait dans la matière, c'est d'avoir des outils qui lui permettent de faciliter son travail, taille, et notamment grâce à la géolocalisation représentée sur un plan cartographique numérique. Ce qui peut aussi se développer, c'est le développement des institutions de géographie militaire. Alors, il ne s'agit pas de plaider pour tel ou tel service ou telle institution, qu'elle soit française ou étrangère, mais en fait, la connaissance géographique occupe aujourd'hui une telle attention, on prend conscience que c'est tellement important cela ne peut passer que par le développement de moyens en personnel, de capacités également en termes d'outils, donc d'investissements, de programmes. Et on sait bien que les programmes militaires ne sont pas conçus pour quelques années, ils sont conçus pour une génération d'officiers, voire plusieurs générations, ce qui est toujours problématique parce que les technologies numériques avancent à très grands pas, je ne vous apprends rien. Et l'idée, c'est quand même d'avoir l'outil qui pourra encore dans 20 ans, 30 ans être opérationnel pour tous les systèmes d'armes, toutes les activités militaires. Donc là, on a un défi technologique, on a un défi capacitaire. Par contre, le défi culturel, il est déjà remporté. Les nouvelles générations d'officiers, de sous-officiers sont déjà très conscients de l'importance des outils numériques. Le tout, c'est que eh bien, le pouvoir politico-militaire donne les moyens justement de mener les actions sur le terrain grâce à ces nouvelles technologies qui restent encore améliorées grâce à l'intelligence artificielle. Mais on sait déjà quels seront les principaux outils justement à employer dans les 10-15 prochaines années au moins. On considère même qu'on en a la préhistoire, puisque tout repose sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, la fusion de données géolocalisées, le GEOINT, dont l'acronyme nous vient du monde anglo-saxon, en particulier des États-Unis.
Merci beaucoup, Philippe Boulanger, d'avoir évoqué pour Conflit ces rapports entre géographie et l'armée. Je rappelle que vous êtes professeur des universités à la géographie à la Sorbonne. Votre ouvrage qui vient de paraître, donc nos auditeurs pourront trouver toutes les références sur le site internet de Conflit, la géographie reine des batailles, paru chez Perrin. Vous pouvez évidemment retrouver en kiosque pour un numéro d'été qui est consacré à l'Amérique latine. Merci pour votre fidélité à nos émissions et à bientôt.